Sud Radio, service compris. 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Et le beau service compris du professeur de médecine Boyan Christophorov, qui est gastro-entérologue. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs de Sud Radio. Et il va y avoir beaucoup de questions, j'en suis sûr, parce qu'on va mettre sur la table le sujet de l'obésité. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'évidemment, en période estivale, tout un chacun tente de faire attention à sa ligne. Ensuite, j'ai lu récemment qu'il y avait de plus en plus d'obèses dans le monde. Donc vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Et puis, petite anecdote, puisque quand il s'agit de kilos en trop, il y a toujours de quoi dire et on est à l'heure du déjeuner, donc c'est important quand même. J'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie, c'est le Parisien qui en parle, sur le fait que pendant que madame est enceinte, on a l'habitude de dire que monsieur grossit, qu'il fait la couvade. Eh ben tout ça, c'est du flan, c'est battu en brèche par une étude. Non, monsieur ne prend pas de kilos pendant que madame est enceinte. En revanche, ce qui est prouvé, enfin en tout cas on ne peut pas en tirer de grandes conclusions à une grande échelle, mais ce qui est prouvé en revanche, c'est que quand le bébé est arrivé, alors là, oui, les hommes prennent du poids. Ça ne vous surprend pas ?
Ça ne me surprend pas, mais il faut se méfier des études. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Tous les événements un peu importants retentissent sur la vie psychique, que ce soit le mariage, le divorce, la naissance, le veuvage. Et les gens grossissent, les autres maigrissent, parce que ça entraîne des modifications psychologiques.
Oui,
il ne faut pas tirer des conclusions définitives.
Non,
vous pouvez
alors
avoir des enfants, vous ne grossirez pas plus.
Oui, non, mais moi j'ai même maigri après la naissance de mon fils. Hein, non, parce qu'une maman est tellement active que moi, j'ai maigri. Mais on dit, en tout cas, enfin c'est ce que dit cette étude, qu'il y a des kilos qui se prennent, très logiquement, parce que monsieur va moins faire son footing, qu'il est plus sédentaire, que globalement la famille mange mieux, passe plus de temps à table, etc. etc. Hein. En revanche, ce qui est amusant, c'est que les hommes perdent des kilos après le divorce. Alors là, peut-être veulent-ils retrouver la ligne de leurs 20 ans pour séduire à nouveau.
Non, ou simplement, ils n'ont plus à la maison quelqu'un qui leur fait des petits plats et
voilà.
Ils vont manger quand ils y pensent.
Tout voilà. S'explique.
Mais tout ça, c'est de l'anecdote, c'est pas très sérieux.
Non, c'est pas très sérieux. Alors, on va passer aux choses sérieuses avec vous, professeur Boyan Christophorov. L'obésité, comment sait-on que l'on est obèse ? Parce que tout un chacun peut se dire, j'ai quelques kilos en trop, mais quand est-ce qu'on sait qu'on franchit finalement pour un médecin ce qu'est la ligne jaune ?
Mais parce que manger est quelque chose d'agréable. Vous savez, nous provenons de la famine à l'origine, pas tellement longtemps, des milliers d'années, les hommes avaient faim tout le temps et cherchaient à se nourrir. Donc trouver de la nourriture, manger, ça calmait leur angoisse. Et à la longue, c'est la nourriture est devenue un traitement de l'angoisse, comme un tranquillisant naturel. Bon, ajouter à ça des tas de facteurs ethniques, culturels, familiaux, psychologiques, il y a des tas de facteurs, y compris la qualité de la nourriture.
Mais quand j'ai dit en préambule qu'il y avait de plus en plus d'obèses dans le monde, hein, ce qui est là prouvé statistiquement, ça s'explique comment quand même,
oui,
cette proportion à l'obésité ?
C'est ce que je vous ai dit, les gens, lorsque les gens sont très pauvres et qu'ils s'enrichissent un tout petit peu, les premières dépenses qu'ils font, c'est pour la nourriture.
Mmh.
Et actuellement, ce sont les pays pauvres qui ont beaucoup de gens en surpoids. Aux États-Unis, ce sont les pauvres gens qui mangent la junk food, la nourriture plantureuse. Et puis les gens distingués mangent peu, suivent des régimes, font du sport, etc.
En France, y a-t-il plus d'obèses ?
Il y a un nombre stable d'obèses.
D'accord.
Il y a eu deux études qui ont été publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui montrent qu'entre 2005 et 2015, il n'y a pratiquement aucun changement. Il y a toujours autant d'obèses, il y en a beaucoup, mais il y en a toujours autant. Donc vous voyez, il ne faut pas schématiser, et peut-être que tout le bruit médiatique qui est fait, toute la pub, toute la communication est efficace.
Oui, mais en France, alors combien de gens ont surpoids pour que les auditeurs de Sud Radio se représentent quand même la part de la population qui est touchée par l'obésité ?
Eh bien, il faut savoir de quoi on parle. Vous savez qu'il y a le poids normal, il y a le surpoids, et puis il y a les différents degré d'obésité. Eh bien, dans les enquêtes dont je vous ai parlé, chez les adultes, c'est à peu près la moitié, hein, vous avez le chiffre sous les yeux.
C'est 54% chez les hommes,
54%
c'est ça
chez les hommes et 44%
chez les femmes,
chez les femmes,
oui.
Des adultes sont soit en surpoids, soit en obésité.
Mais c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais c'est stable.
Oui.
Vous savez, jusqu'ici, ça grimpait.
D'accord.
Et de la même manière, chez les enfants, c'est l'inverse. C'est les filles pour 18% et les garçons pour 16% qui sont en surpoids ou bien obèses. Mmh. C'est beaucoup, mais il y a une évolution. Il ne faut pas être catastrophiste.
Alors, avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio, rappelons évidemment comment on évite d'être en surpoids et de devenir obèse.
Tout simplement. C'est tellement simple. Il faut manger de manière mesurée et puis il faut faire de l'exercice en
Éviter les sucreries, bien sûr.
Ah, bah bien sûr, ça, vous savez, dans les rues, vous avez toutes les affiches qui vous le disent. Éviter le sucré, éviter le gras, bien sûr.
Bonne politique de prévention en France, mais y a-t-il des régimes miracles? Parce que chaque année, on en voit fleurir.
Surtout pas. Il y a des régimes miracles, effectivement, qui vous font maigrir. C'est le docteur Intel ou le docteur Intel ou le professeur Barbemol. Il vous donne des protéines. Et pas de glucides, pas de sucre, de pain et pas de graisse, alors vous allez maigrir. Seulement, cet régime héroïque est coûteux, vous n'allez pas pouvoir le poursuivre toute votre vie. Et lorsque vous revenez à la vie normale, vous reprenez vos kilos généralement.
Mmh. Est-ce que vous nous conseillez de nous faire aider quand on est en surpoids, quand on est obèse, pour perdre du poids? Comment on se fait aider pour être sevré pour le tabac, par exemple?
Tout à fait. Mais il faut trouver des gens raisonnables, pas des gens qui vous conseillent des régimes incroyables. Il y a des diététiciens, il y a des médecins qui ont la patience de vous voir et de vous soutenir, parce que c'est pas facile. Vous savez, par exemple, il y a aussi des associations qui sont très bien rodé dans ce domaine et où la participation est bénéfique.
Est-ce que l'impact psychologique n'est pas très important, justement? Est-ce que quand on maigrit, on ne doit pas aussi s'alléger dans sa tête?
Oui.
Débarrasser de ses kilos, mais au sens psychologique.
C'est vrai. Mais ça, c'est de la
la psychothérapie, c'est ça?
L'autopsychothérapie, on se sent bien, on est plus léger, on dit on est beau, je plais aux filles et tout ça.
Oui, c'est vrai, les filles aiment bien ça, hein, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Professeur Boyan Christophorov, avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio, on va évidemment quand même parler des coupes-vins et de la chirurgie, parce que ça suscite quand même toujours beaucoup de questions, et j'invite les auditeurs d'ailleurs à faire tout de suite le 0826-300-300. Hein. Est-ce que la chirurgie, c'est une bonne chose pour arrêter de grossir, pour lutter contre l'obésité? Mais les coupes-vins, alors?
Les coupes-vins, ils sont interdits. Ils sont interdits, il y en a sous des formes dissimulées, mais ils sont interdits, souvenez-vous, du Mediator. Le Mediator est le dernier des coupes-fins qui a défrayé la chronique, mais il y en a eu bien d'autres avant. Ce sont des produits qui effectivement agissent sur le cerveau, mais pas seulement comme coupe-fin, ils sont des excitants, c'est la famille des amphétamines, et beaucoup d'entre ces produits agissent aussi sur le cœur et sur les vaisseaux, et le Mediator était responsable d'anomalies des valvules cardiaques redoutables.
Mais quand vous dites qu'il y en a encore des dissimulés, vous pensez à quel coupe-fin?
Il y a des produits qui se vendent sur Internet, qui ne sont pas autorisés par la pharmacopée française, mais qui se trouvent. Puis il y a une autre variété, ce sont les hormones thyroïdiennes. Lorsque vous avez une hyperthyroïdie, lorsque la glande thyroïde travaille trop, vous maigrissez. Alors il y a des gens qui prescrivent de manière plus ou moins ouverte des hormones thyroïdiennes, ce qui crée une maladie.
Une maladie?
Oui, qui vous fait maigrir.
Ah oui, d'accord. Bon, mais évidemment que vous ne recommandez pas. Hein. Tout
bien
ça, c'est à proscrire.
Non.
C'est à interdit. Allez, on accueille Mickaël qui a fait le 0826-300-300. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
On vous écoute avec le professeur Christophorov.
Moi, je vous appelle parce que j'ai mon fils de 10 ans qui, je trouve, plutôt dodu. Je suis plutôt dans la prévention là de l'obésité. Il va rentrer en 6e et je ne sais pas trop, en fait, sur quelle partie de l'alimentation je peux agir pour justement qu'il perde un peu de poids et qu'il ne tombe pas dans l'obésité.
C'est une très bonne idée de s'y prendre à temps. Je crois qu'il faut essayer de lui communiquer un certain nombre de principes d'alimentation sans que ce soit trop lourd et que ça suscite de révolte. Mais il faut mesurer le pain, il faut mesurer, bien entendu, interdire les sucreries, éviter les mets trop gras, il faut éviter de se resservir. Bref, il faut avoir un régime raisonnable,
oui, mais...
et puis l'inscrire au sport.
Mais voilà, mais l'inscrire au sport, mais est-ce que le drame de l'obésité qui touche de plus en plus d'adolescents, il a quel âge votre fils? Bon, il n'est pas encore en...
Il a 10 ans.
En sur... disons.
Oui. Est-ce que le drame, c'est pas tous ces jeunes qui sont aussi devant les vidéos, qui jouent aux jeux vidéo et qui passent des heures sur le canapé?
Bien sûr. Mais avant, ils faisaient autre chose. Ils écoutaient la radio. Il y a toujours une dérive d'inactivité.
Hein.
Ne croyez pas qu'il y a eu un âge d'or où tout le monde courait dans les rues. C'est plutôt l'inverse.
Ouais. Alors, racontez-nous, Michael. Vous êtes inquiet. Pourquoi? Vous êtes inquiet plus que de coutume?
Je suis inquiet parce que déjà au niveau de la famille, il y a quelques dispositions, prédispositions qui font que on a un peu tendance à prendre du poids. C'est vrai que j'aimerais éviter que lui suive un peu la trace de la famille. Alors je me suis demandé si d'aller voir un diététicien, une diététicienne pour le suivre était une bonne solution. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé vraiment quelle serait la solution idéale. Alors c'est vrai que le sport il en fait pas énormément. Ça pourrait être une solution pour, en tout cas en septembre.
Ce n'est pas la solution, mais c'est un élément de la solution. Sinon, je crois que si vous avez, par exemple, à travers votre médecin généraliste ou autrement la connaissance d'un vrai diététicien, il faut le conseiller. Et puis c'est un travail de tous les jours, c'est une culture. Comme vous le signalez, il y a des familles où on mange beaucoup, où il y a une mère de famille qui passe son temps à cuisiner, qui vous sert des assiettes grosses comme ça.
Les mamas italiennes.
Voilà, il faut essayer d'éviter. Ça, il faut introduire dans la maison une culture de la mesure alimentaire.
Mm-hmm. Bannir les sodas, par exemple.
Ah, les sodas, toutes les boissons dont on fait la pub, c'est de l'eau, du sucre, un colorant et un parfum. Donc vous les supprimez, mais complètement et définitivement. Vous buvez de l'eau à bulles, si vous voulez. Les jus de fruits, il faut se méfier, parce qu'il y a des jus de fruits qui sont très sucrés.
Mm-hmm. Voilà. D'accord.
Oui. Ça va pour vous, Michael?
Oui, parfait. Et puis en plus, vous m'avez mis un peu de baume au cœur parce que vous avez dit en début d'émission qu'on perdait du poids après un divorce. C'est mon cas, donc j'ai bon espoir.
Méfiez-vous, on peut aussi en prendre. Tout dépend de la manière dont est vécu le divorce.
Bon, merci pour votre attention et restez fidèles à Sud Radio et à Service Compris, bien sûr, Michael. Avant d'accueillir les autres auditeurs, professeur Boyan Christophorov, évoquons la chirurgie. Hein. Vous êtes gastro-entérologue. Hein. La question de la chirurgie pour lutter contre l'obésité, pour perdre tous ces poids. Quelles sont les dernières techniques en vogue, si j'ose dire, qui parlent à ceux qui nous écoutent?
La chirurgie, cela veut dire que l'on crée une maladie pour en guérir une autre. La maladie que l'on crée, c'est une mauvaise absorption de l'intestin de l'organisme. Alors il y a trois grandes interventions en cours. L'une consiste à mettre un anneau au milieu de l'estomac, comme ça c'est tout bête, mais ça diminue votre capacité d'ingestion et vous êtes plus rapidement saturé. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça marche pas, on n'utilise pas. Les deux qui restent, c'est ce qu'on appelle la gastrectomie, la sleeve, c'est-à-dire que on enlève une grande partie de l'estomac dans le sens vertical. L'estomac, on le transforme un peu en un tube. Alors évidemment, même chose, pas de capacité suffisante pour s'empiffrer. Et puis, mauvaise digestion. Et puis, l'intervention la plus lourde, ça consiste à faire un bypass, c'est-à-dire que on branche l'ésophage, on court-circuite l'estomac et on met directement l'intestin. Et là, on crée une véritable maladie de malabsorption, maladie qu'il faut surveiller parce qu'on absorbe mal le fer, on absorbe mal le calcium, on absorbe mal de vitamines. Bon, donc vous voyez, c'est quelque chose de très lourd,
très lourd.
Nécessite des investigations préalables et un suivi. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que très souvent, la première année, c'est magnifique. On perd 40-50 kilos. Et ensuite, lentement, on remonte. Et très souvent, quand on voit les gens 10 ans après, ils sont proches du poids initial. Donc, il faut vraiment préparer les patients et les suivre une fois qu'ils ont été opérés.
Donc, il faut vraiment alerter nos auditeurs, ne pas considérer la chirurgie comme une facilité.
Ce n'est pas une panacée.
Voilà, c'est une intervention de sauvetage pour éviter une catastrophe.
Tout
donc, de toute façon, ce sont dans des cas extrêmes, c'est ça? Est-ce que vous redoutez que ça devienne un peu une espèce de chirurgie de confort? Non, quand même
non,
pas, on n'en est pas là en France.
Il y a quand même eu 40 000 interventions de chirurgie, on appelle ça la chirurgie bariatrique. 40 000, c'est beaucoup au cours de l'année 2015. Et surtout, il ne faut pas que ces interventions ne soient pas encadrées.
Voilà,
il faut que les gens soient bien préparés avant, qu'il y ait des nutritionnistes, des diététiciens, des psychologues qui essaye de comprendre la situation. Et une fois l'intervention faite, il faut qu'il y ait un suivi pour éviter la remontée du poids.
Ce n'est pas le cas, hein, toujours, ce suivi. Hein. Il y a bien des auditeurs de Sud Radio, je suis sûr qu'ils sont en déshérence. Donc vous faites le 0826 300 300 tout de suite, hein, parce que le professeur est avec vous jusqu'à 14h et ça passe très vite. Et pour être sûr de passer à l'antenne, c'est maintenant qu'il faut se manifester. Donc 0826 300 300, justement, vous avez subi une opération de chirurgie bariatrique. Vous vous sentez un peu seul maintenant pour gérer ça. Vous voulez nous raconter ou alors vous vous dites j'ai envie de me faire opérer mais je n'ose pas franchir le pas. Eh bien profitez-en, vous avez un gastro-entérologue à votre disposition pour en parler. Le professeur Christophe Orhoff sur Sud Radio, on vous attend.
Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Et surtout, le professeur de médecine Boyan Christophe Orhoff, professeur gastro-entérologue, entre autres, hein, parce que vous êtes aussi ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin et président de la Société française francophone d'addictologie plutôt, hein, pas que française, francophone d'addictologie. On a fait des belles émissions évidemment consacrées au tabac, à la lutte contre le tabac, à la dépendance bien entendu, au cannabis même et à l'obésité qui est une forme de dépendance bien sûr à la
tout
nourriture,
à fait,
professeur.
Tout à fait.
Donc vous nous avez dit, malheureusement, il n'y avait pas de remède miracle pour s'en sortir. Donc, on va prendre les questions des auditeurs. Flora, c'est à vous. Bienvenue sur Sud Radio, dans Service Compris.
Merci, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai une petite question. En fait, j'ai fait plusieurs régimes et voilà, j'ai perdu plusieurs kilos, mais à chaque fois, je les ai repris. Et du coup, je voulais savoir si, avec mon poids, vous aviez des conseils à me donner pour éviter l'effet yo-yo ou alors s'il fallait que j'abandonne complètement les régimes et que je passe à carrément à autre chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus compliqué en termes de d'opération, etc.
Il ne faut certainement pas abandonner. Quel est votre poids et votre taille?
Alors là, je fais environ 1m67-68 et je pèse aux alentours de 93 kilos.
Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et je crois que, vous savez, c'est comme pour l'arrêt du tabac. Les gens s'arrêtent plusieurs fois avant d'obtenir un arrêt, une stabilisation. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à recommencer. Bien sûr, vous êtes dans la zone des indications de la chirurgie, mais il faut bien y réfléchir avant parce que c'est quelque chose qui est mutilant, qui est définitif.
Ah, là, alors je crois que vous nous avez refroidi quand vous nous avez raconté justement les opérations bariatriques, la chirurgie bariatrique.
Et elle se passe très très bien en général, mais enfin, on n'est plus le même, on est une personne malade.
Flora, vous avez songé à la chirurgie ou vous n'en êtes pas encore là dans votre tête?
Bien sûr, j'y ai pensé, mais il faut que le budget suive derrière.
Ah non, ce n'est pas une question de budget. L'intervention est prise en charge par la Sécurité sociale comme toutes les autres maladies. Il y a simplement des normes. On accorde à partir d'un niveau de surcharge en poids qui est connu, qui est à peu près le vôtre d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut, essayer, il faut surtout, quand vous perdez du poids, il faut rester en contact avec les gens qui vous ont suivi. C'est en quelque sorte le catéchisme de persévérance. Hein, une fois que vous avez perdu du poids, il faut continuer pour éviter de retomber.
Oui, c'est-à-dire que là, il faut qu'elle soit coachée, en quelque sorte, Flora.
Tout à fait.
Voilà, la solution pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment ça. C'est difficile de s'en sortir seul.
Très difficile.
Donc ne pas hésiter à se faire aider. Vous le comprenez, ça, Flora?
Oui, bien sûr. Je suis très entourée, hein, donc ça, c'est pas un souci, mais c'est vrai que je cherche des solutions. Et c'est vrai que tout ce qui est chirurgie me fait un petit peu peur. Mais si c'est une des solutions les plus efficaces pour que je me sente mieux dans ma peau, bien sûr que va falloir y songer plus sérieusement.
Quel âge avez-vous ?
Moi, j'ai 25 ans.
Oui, c'est vrai. Donc, vous avez devant vous la possibilité d'avoir des grossesses. Ce sont des choses qui font prendre du poids. Et si on a été opéré, c'est quand même un handicap. Non, je crois qu'il faut pas vous décourager. Il faut recommencer et rester bien, bien suivi.
D'accord, merci
Flora,
beaucoup.
On vous souhaite beaucoup de courage. Allez,
merci,
accrochez-vous,
beaucoup.
Vous allez voir. On accueille Leslie sur Sud Radio dans Service Compris. Vite, hein, évidemment, pour être avec le professeur Christophe Orhoff, 0826 300 300. On vous écoute, Leslie.
Oui, bonjour Véronique, bonjour à votre invité. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai vu récemment à la télé un reportage sur la cryolipolyse. Et je voulais savoir si c'était une technique qui déjà était efficace, parce que ça paraît être un petit miracle. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on est sur une technique qui fonctionne quand on a juste un petit bourrelet en trop à vouloir se faire retirer? Ou est-ce qu'on peut y aller quand on est vraiment sur un gros surpoids? Voilà, je voulais savoir si c'est vraiment une technique qui fonctionnait.
Alors, la cryolipolyse est une technique qui consiste à mettre à moins 6 degrés la graisse sous-cutanée, sous la peau. C'est une technique qui est à l'essai, qui est utilisée par des instituts esthétiques.
Mais ça la fait fondre, ça,
oui,
quelle incidence sur la graisse?
Ça altère les cellules de graisse, les adipocytes, et puis ils sont métabolisés. Mais c'est surtout utilisé localement. Ah. C'est pour la culotte de cheval. Vous savez, la culotte de cheval, les gens obèses en ont, mais il y a aussi des gens normaux qui ont la culotte de cheval. Et donc, c'est dans cet objectif que c'est utilisé, pas pour perdre du poids, vous comprenez, la lipolyse, ça peut vous faire perdre 500 grammes ou 600 grammes d'une graisse mal placée, mais c'est le bilan d'ensemble.
Est-ce que ça fonctionne pour les hanches?
C'est toujours là qu'on l'applique. C'est là où sont les, vous savez, les bourrelets, les poignées d'amour et tout ça. C'est pas entièrement prouvé. Hein. Je suis au courant d'un protocole, par exemple, qui vise à démontrer que ça marche. C'est pas encore totalement prouvé.
De toute façon, c'est utile pour soigner sa silhouette, mais pas pour lutter contre le surpoids.
Voilà.
Ah, c'est ça. Bon,
et je voulais juste savoir aussi, excusez-moi, est-ce que les différentes interventions chirurgicales, que ce soit un anneau gastrique, un bypass, ce genre de choses, est-ce que c'est des interventions remboursées par la Sécurité sociale?
Elles sont remboursées à condition que la surcharge en poids soit d'une importance qui est définie, qui soit suffisante. Oui, absolument.
D'accord, merci beaucoup.
Eh bien, on vous en prie, Leslie, cette émission est faite pour vous, hein, elle est faite pour les auditeurs de Sud Radio, donc vraiment, vous n'hésitez pas, vous avez la moindre question, le 0826 300 300, et puis notre page Facebook, service compris, faut que ça bouge. On se bouge pour vous, faut vous bouger avec nous, hein, et de toute façon, pour perdre du poids, faut se bouger, professeur, vous l'avez dit. Alors, on accueille Léa, bonjour Léa.
Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors moi c'est un peu le grand écart, j'ai pas vraiment de problème d'obésité, c'est plutôt l'inverse. J'arrive pas à prendre de poids, j'ai tendance à manger matin, midi et soir assez normalement, mais je prends pas de poids. Donc du coup je sais pas comment faire et je voulais vous demander si vous avez des solutions, si vous avez des régimes assez spécifiques pour pouvoir justement prendre un peu de poids.
Combien mesurez-vous, combien pesez-vous?
Alors moi, je fais 1m64 et je fais 44 kilos.
C'est un poids qui est tout à fait correct. Je ne sais pas sur le plan esthétique si vous en êtes contente, mais pour prendre du poids, il faut faire l'inverse de ce qu'il faut pour maigrir. Vous pouvez d'ailleurs vous faire conseiller par un diététicien, mais il faut manger ce qui fait grossir, c'est-à-dire
alors
le pain.
Alors qu'est-ce qui fait grossir?
Les pommes de terre, les riz, les sucreries, à vous, les éclairs au chocolat.
C'est déjà le cas.
Oui.
C'est ça le problème.
Mais vous êtes dans une zone de poids tout à fait correcte. Vous savez, vous n'êtes pas dans un pays. Vous savez,
alors professeur, oui, pour aller plus loin que la question de Léa, si on s'empiffre, passez-moi l'expression, hein, mais dans le cas de Léa, si on se trouve un petit peu maigrichon, forcément on prend du poids. Parce que je connais des gens qui sont de grands mangeurs, qui ne grossissent absolument pas.
On est inégal devant la prise des kilos, mais il y a toujours une dose de calories qui vous fera grossir. Toujours,
d'accord. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une réserve? C'est-à-dire que c'est propre à l'être humain?
Il y a des gens
de s'enrober quand même malgré tout.
Entre guillemets, qui profitent plus ou moins de leur régime. Et les gens grossissent, croyez-moi.
Oui, oui, bien sûr. Léa, allez-y, je vous laisse parler.
Du coup, je voulais voir également s'il y avait possibilité de voir, du coup, comme vous disiez, un nutritionniste. Mais je voulais savoir s'il y en avait qui étaient remboursés par la Sécurité sociale ou qui avaient...
C'est un domaine difficile. C'est un domaine difficile. Il faut aller dans des établissements hospitaliers où vous avez des diététiciens, mais le remboursement n'est pas très bon. Il y a un problème aussi de qualification. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament nutritionnistes alors qu'ils n'ont pas de grande capacité. Mais enfin, ça ne coûte pas très très cher. Vous savez, c'est pas... Oui. C'est pas inabordable.
Et c'est comme quand on va chez le psy, peut-être non, c'est important, enfin important, comprenons-nous, de payer pour être sérieux dans la démarche, non?
Oui,
vous comprenez ça, professeur?
Peut-être, je suis pas aussi sûr, mais on peut payer également à son pâtissier.
Oui, c'est vrai. Voilà. Plutôt que d'aller voir le nutritionniste, vous pouvez acheter plein d'éclairs au chocolat, Léa, non?
Ouais, mais ça va me faire un trou dans mon parcours.
Mais on vous a conseillé. Non, mais ce qui est intéressant dans votre cas, Léa, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a des gens qui veulent
grossir.
C'est
pas exceptionnel.
Ah, c'est pas exceptionnel. Mais on vous a conseillé un nutritionniste, Léa?
Bah, moi, en fait, mon médecin trouve que je suis trop. Mon médecin généraliste m'a dit que j'étais trop mince, trop maigre. Et du coup, elle m'a dit faudrait que, effectivement, vous alliez voir un nutritionniste pour. Essayer d'adapter les plats pour grossir un peu plus.
Écoutez, il n'y a pas d'impératif médical. Quand on est dans la zone des poids normaux, il n'y a pas d'impératif médical à grossir. Peut-être que votre médecin a plutôt une conception esthétique de la corpulence.
Mm-hmm. En tout cas, c'est vrai, vous dites, professeur, que ce n'est pas si rare, le cas de Léa, peut-être parce que beaucoup de jeunes personnes ou de jeunes femmes sont assujetties à cette dictature de la silhouette. Non,
autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose. Vous avez les vrais anorexiques, vous avez les anorexiques par mode, vous avez, par exemple, les mannequins sont dans un état nutritionnel souvent terrible parce qu'on les oblige ou elles s'obligent. Mais c'est un autre problème, c'est un problème psychologique.
Oui. Mais quand vous dites anorexique par mode, qu'est-ce que ça veut dire?
Ils ne mangent pas, les jockeys ne doivent pas prendre du poids, et là ce n'est pas une mode, c'est une nécessité, les mannequins, etc. Et puis il y a des gens qui sont anorexiques pour des raisons de fonctionnement de la psychologie, qui n'aiment pas leur corps, qui ont des principes,
oui, c'est un autre
qui
sujet.
Peuvent nous surprendre, mais c'est comme ça.
Voilà. Léa, allez, pas d'inquiétude de votre côté, et vous suivez les conseils du professeur Christophe Warhoff pour prendre du poids. Merci professeur, évidemment, j'espère que ça n'a pas coupé l'appétit, cette émission, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent. En tout cas, voilà, vous continuez à manger avec modération, et surtout vous faites plaisir en cette période estivale. Moi, ce sera mon message. Je vous retrouve demain, dans un instant, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio.